de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierres et de notes. Je suis en compagnie d'Yves Gourina, un organiste et professeur de physique et structure. Bonjour Yves.
Bonjour Blandine.
Nous allons aborder aujourd'hui l'utilisation du bois et du métal dans l'orgue, à savoir des matériaux de lutherie et de facture d'orgue. Que vous, en tant que spécialiste en la matière, nous allons étudier plutôt ce regard de l'orgue à travers ces matériaux. Donc, à partir de quels matériaux l'orgue est-il construit et comment peut-il résonner donc avec ce travail du bois et du métal ?
Alors, spécialiste en la matière, vous ne croyez pas si bien dire. En la matière, c'est vraiment le mot, puisqu'il s'agit de la matière. C'est-à-dire, quand on dessine quelque chose, qu'est-ce qu'on va mettre comme matière à l'intérieur du dessin ? Je dirais que c'est comment on va incarner le concept et comment il va devenir la réalité. Et donc, oui, vous avez raison, le facteur d'orgue va faire appel à tout ce que la création nous donne comme type de matériaux, comme l'argile du potier. Le potier, il a en tête un vase avec une certaine forme, vous voyez, une certaine géométrie, et il va fabriquer une coque qui va incarner avec de la glaise. Voilà. Et ben, le facteur d'orgue, c'est exactement la même chose comme le luthier d'ailleurs, ben, c'est vieux comme le monde. Et bien, il va utiliser les matériaux que la nature nous donne. Alors, vous avez mentionné le bois et le métal. Si je puis me permettre, car je suis physicien, ça ne vous a pas échappé, on a effectivement le bois, c'est du composite, c'est de la fibre de carbone avec de la résine. Vous savez, les gens qui font de la fibre de carbone, en réalité, ils n'ont rien inventé. Ils ont réinventé le bois artificiel, donc c'est de la fibre de carbone, le bois. Ensuite, le métal, effectivement, c'est des matériaux amorphes coulables, c'est-à-dire plastique, si vous voulez. Il y a une troisième catégorie aussi qui sont les matériaux cassants ou céramiques, comme par exemple le verre. Voilà, on en parlera peut-être parce qu'on dit souvent ça a un son de cristallin, un son cristallin. On comprend très bien ce que ça veut dire. Donc je tiens à dire que ces matériaux-là sont tous utilisés dans la facture d'orgue. Alors en effet, le facteur a le choix en fonction de l'intention qu'il projette architecturale de l'instrument, a le choix des matériaux. Donc, on peut parler, si vous voulez, de cette incarnation, en effet.
Donc, vous parliez du potier, vous parliez aussi des verres. Donc, on a l'utilisation dans une œuvre, donc la Glass Harmonica de Mozart, dans son adagio. Il évoque ici un matériau qui est différent et qui peut représenter justement quelque chose au niveau du son. Donc, la matière fait résonner aussi une extraordinaire sonorité.
Je vois que ça vous a pas échappé. Et ça n'a pas échappé à Mozart non plus. Alors effectivement, on a tous fait l'expérience, quand on tape sur un verre, ça, on donne un dirac, une impulsion sur un verre, ça fait ding, c'est comme une cloche finalement. Mais on a aussi un archet sur le verre, on a tous fait ça un jour dans notre vie, en mettant de l'eau sur le bord et en frottant le verre, on s'aperçoit qu'il entre en résonance et c'est quelque chose d'absolument magnifique. Alors effectivement, Mozart a été fasciné par le son qui quelque part préfigurait les ondes Martenot. C'est assez étrange, le son du glass harmonica n'est pas très loin de celui de la palme, le haut-parleur tellement étonnant que Martenot avait créé pour ce premier instrument électronique. Et donc Mozart a été fasciné, en effet, par cette sonorité, parce qu'elle a quelque chose de cristallin et de rêveur. En fait, c'est un peu le mélange du célestat et de la voix céleste, si j'ose dire. Et donc, il a en effet écrit des œuvres pour cet instrument-là. Alors concrètement, cet instrument, il est constitué d'une série de vases, l'un à côté de l'autre, qui trempent dans l'eau. Et puis, on a un doigt qui vient frotter chacun des vases, qui est accordé à une certaine hauteur, un petit peu comme une vielle à roue, finalement. Et d'ailleurs, la comparaison avec la vielle à roue est tout à fait licite, puisqu'il y a une manivelle pour faire tourner les vases en question. Et donc, c'est quelque chose d'absolument magnifique.
Thank you.
Retournons à l'orgue. Alors, justement, on parle de bois. Quelle sorte de bois utilise-t-on? Comment fait-on pour fabriquer un orgue, puisque les facteurs d'orgue ont un atelier?
Comment ça fonctionne, si j'ose dire, on va utiliser du bois dont on fait les violons pour faire des orgues. Alors, effectivement, il faut des bois, des essences de qualité. Et le bon facteur d'orgue est avant tout un ébéniste. Vous avez tout à fait raison. Et il va sélectionner les bois sur l'arbre en pied. Comme vous savez, les architectes navals, autrefois, pour faire les bateaux, ils sélectionnaient les branches, les troncs, sur l'arbre debout encore. Alors, le facteur d'orgue, vous savez, je vais vous donner un scoop. C'est l'aspect visuel, bien sûr, du bois, mais aussi le toucher. Vous voyez, je donne un dirac sur une planche de bois et on a déjà une idée en fonction des fréquences, en fonction de l'amortissement, en fonction du développement de Fourier, du timbre, de ce que la sonorité va donner. Alors effectivement, le bois est fondamental dans l'orgue. D'abord parce que le buffet est généralement en bois. Bon, c'est très rare que le buffet soit métallique, donc le buffet est généralement en bois. Donc c'est une cage un petit peu comme la caisse de résonance du violon, c'est la première chose. Et puis, certains des tuyaux sont également en bois. C'est d'ailleurs assez fascinant, à section carrée ou rectangulaire, et ils donnent un son qui est celui d'une flûte à bec, mais avec beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de profondeur qu'une flûte à bec. Et d'ailleurs, quelque part, on revient aux origines de la flûte de Pan avec ça. Donc le facteur d'orgue va imaginer le timbre que va donner ce tuyau, rien qu'en regardant et en écoutant le bois.
Il y a une science pour aussi valoriser les timbres de l'orgue pour montrer la matière de manière différente. Mmh. Peut-être que vous avez des tuyaux plus petits, plus grands, oui, en fonte, et là il faut mettre un alliage de plusieurs matériaux.
Effectivement, vous parlez des métaux. Et alors, il ne s'agit pas de fonte, hein. Ce sont des alliages d'étain et de plomb, dans des proportions assez savantes d'ailleurs, presque alchimiques, puisqu'on parle de plomb. Il y a tout un vocabulaire des facteurs d'orgue qui fabriquent eux-mêmes leur alliage, puisque ce sont des matériaux qui fondent à température relativement accessible. Hein, c'est pas comme de l'acier. D'ailleurs, l'acier a des propriétés acoustiques qui sont pas très bonnes. Hein, pour les tuyaux, c'est vraiment pas le matériau idéal parce qu'ils ont un coefficient d'amortissement relativement important. Donc, ils vont, si vous voulez, ils vont donner un son plus feutré et moins agressif que si on faisait un tuyau en acier à ressort. Hein, voilà. Donc, ce sont des matériaux qui fondent à température relativement basse et donc qui mélangent eux-mêmes. Et il y a tout un tas de vocabulaire propre aux facteurs. Donc, je résiste pas à la tentation de vous citer quelques-unes de ces anecdotes. D'abord, ils brunissent, ils appellent le mot brunir l'alliage en frottant les plaques qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et puis, ils regardent aussi à certaines proportions, il apparaît des taches. Ils appellent ça en anglais le spotted. Le spotted, ce sont des alliages dans lesquels il y a des taches d'étain qui apparaissent à l'intérieur du plomb, ou plutôt de plomb à l'intérieur de l'étain, et qui caractérisent qu'on est à la proportion idéale qu'il faut pour avoir le timbre qui va bien. Donc tout ça, alors vous parlez de science, oui, mais c'est aussi la même science que les très grands maîtres de la cuisine, c'est-à-dire qu'il y a de la chimie, il y a de la physique, et il y a surtout du savoir-faire et de l'oreille.
On parle de timbre parfois, justement, ces alliages-là. Lorsque la température monte, il faut réaccorder l'orgue. Une présentation de dilatation ou un manque d'eau.
Oui, mais l'influence de la température est très complexe sur un instrument. D'abord, il y a la célérité du son dans l'air qui change avec la température. Ça, c'est la célérité du son. Mais il y a aussi, vous avez raison, la dilatation des matériaux. Ce qui aggrave en plus le problème, c'est que les matériaux sont différents d'un jeu à l'autre, et donc cette dilatation va être un petit peu différente. Et donc, vous avez raison, à cause de la variation de la vitesse du son dans l'air, et à cause des variations de coefficient de dilatation d'un jeu à l'autre, eh bien, on est obligé de réaccorder l'orgue en fonction de la saison. Vous avez complètement raison.
Donc, au niveau du matériel, pour le moment, on a du bois, du métal, mais on a aussi de la céramique et de la peau.
Donc, et de la peau, mais
oui,
vous avez
bien sûr. Donc,
raison.
La céramique pour peut-être faire les boutons des tirages.
Absolument. Ou, et puis même, alors,
de l'ivoire aussi, pour la
tout
touche.
Tout à fait. Alors, de l'ivoire naturel ou artificiel, puisqu'il ne nous a pas échappé qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'utiliser de l'ivoire, sauf de l'ivoire de mammouth. Bon, mais c'est quand même relativement rare. Et donc, on a maintenant de l'ivoire artificiel, qui est en réalité un matériau céramique. Alors pourquoi ? Parce que sous le doigt, si vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement ferme et d'extrêmement solide. De vous à moi, je préfère encore le contact avec le bois très dur. Alors il faut qu'il soit vraiment du bois d'ébène, très très solide. Il y a une certaine chaleur qu'on n'a pas avec la céramique. Et vous avez raison, pour les boutons des jeux, pour un certain nombre de qui ne sont pas du tout accessoires, hein, si vous vous trompez de jeu pendant un concert, ça m'est arrivé, hein, vous tirez la bombarde avec un bourdon de 8 pieds, vous entendez tout de suite la différence. Bon, mais c'est arrivé à de grands organistes aussi, hein, de se tromper de jeu, puisque voilà. Et ben donc c'est pas des détails du tout. Vous avez raison. Cavaille École, par exemple, il était connu pour les porcelaines, car il s'agit de la porcelaine de Limoges avec lesquelles il indiquait ses jeux. Vous avez tout à fait
Alors
raison.
Parfois ça se décolle parce qu'évidemment
oui, on sent le vécu. Là.
Donc, oui. Donc du coup, comment fait-on pour recoller voilà, on appelle un facteur d'ordre.
Oui, mais alors vous savez, alors là vous me posez une colle, si j'ose dire. J'étais toujours impressionné avec les facteurs d'ordre de voir l'expertise qu'ils ont sur les colles. C'est extraordinaire. Et souvent, ils se fabriquent plus ou moins eux-mêmes leurs colles avec des recettes en température, avec, par exemple avec du poisson. Ils ont des colles de poisson qui sont extraordinaires et qui, à mon avis, collent beaucoup mieux que ce qu'on peut acheter dans le commerce.
Et la peau maintenant, donc on ne fait pas la peau à l'orgue, hein, mais il faut parler des peaux, parce que c'est important, dans l'orgue on a du vent, et pour faire fonctionner ce vent, on doit avoir effectivement un réservoir d'air, un réservoir d'air dans lequel on appelle le sommier, et qui montre
et là,
effectivement
il y a
des peaux, et qui,
alors,
voilà.
Tout à fait.
Donc, vous
alors,
pouvez nous expliquer.
Et alors écoutez, mais vous avez raison d'attirer l'attention là-dessus, c'est que ça montre la richesse du métier de facteur d'orgue. Alors il faut être effectivement ferblantier pour les métaux, métallier on va dire. Il faut être ébéniste, menuisier pour le bois. Il faut être verrier pour la partie céramique. Et en plus, il faut être potier. Et oui, il faut s'intéresser aux pots. Et c'est un matériau vivant, c'est un matériau extrêmement... Soit dit au passage, c'est un matériau pour lequel aujourd'hui, on n'a pas vraiment réussi à trouver de synthèse équivalente. Et donc aujourd'hui, c'est un des éléments majeurs qui vieillissent dans les orgues, les pots, il faut les changer. Alors, où les trouve-t-on, les pots? D'abord, sur la soupape. Quand la soupape se ferme, mais c'est quand même fondamental. Quand elle doit être fermée, elle doit être fermée. Et quand elle doit être ouverte, elle doit être ouverte. Monsieur de la Palice n'aurait pas dit mieux. Il faut que ça ne fasse pas de bruit. Et il faut que ce soit étanche et que ce soit parfaitement fiable. Eh bien, on n'a pas trouvé aujourd'hui mieux que la peau d'agneau, par exemple, ou la peau de certains... Alors, il faut choisir, effectivement, les peaux très, très fines. Ensuite, vous avez raison, sur les sommiers, sur les jointures, il y a des parties démontables ou non démontables sur les sommiers, et toutes ces cloisons ne doivent pas laisser passer d'air. Sinon, il y a ce qu'on appelle un emprunt, qui est un défaut, si vous voulez, qui est un petit peu comme un souffle au cœur. Et puis, vous en trouvez des peaux également, ça, on n'en parle pas souvent, sur les soufflets et les réservoirs à lanterne qui servent à accumuler l'air entre la pompe, qui autrefois était manuelle, ou aujourd'hui c'est un ventilateur électrique, et le sommier qui distribue l'air dans les tuyaux, il y a des réserves. Et ces réserves sont des soufflets qui montent et qui descendent, qui sont en bois, mais à l'intérieur desquels il y a, pour joindre le bois, des éléments de peau. Soit dit au passage, au Moyen-Âge, ils étaient entièrement en peau. C'était des soufflets de forgerons. Mais, alors là, évidemment, si tout est en peau, c'est très facile d'avoir des fuites. Nous avons tous remarqué, quand on a nos petits soufflets dans la cheminée, que très souvent, il y a des petites fuites. Donc, le facteur d'orgue a pris des soufflets à éclisse, en bois, mais la jointure entre ces soufflets, c'est en peau, collée avec des recettes de grand-mère, pour avoir l'étanchéité et qu'il faut changer régulièrement. C'est toute une partie du facteur d'orgue.
Donc, nous avons effectivement, dans cette émission, vu toute la physique à travers le bois, puis
les matériaux
qui sont aussi le métal, mais aussi du domaine du vivant qui est la peau. Au niveau du métal, il y a aussi parfois des sonorités qui ressemblent un peu à un instrument pythagoricien, puisqu'on a le symbole aussi que l'on a aussi.
Oui, alors tout à fait. Alors, si vous voulez, le métal est utilisé pour les tuyaux, on l'a dit, mais aussi pour la transmission, hein, il faut quand même le dire, pour les pédales aussi, les pédales d'accouplement, etc., dès qu'il y a des mécanismes. Le métal est très utile pour réaliser des structures. Si vous voulez, le matériau, c'est quelque chose qui remplit le vide, qui remplit un volume, mais il va s'assembler de manière architecturale dans ce qu'on va appeler une structure. Donc la différence entre un matériau et une structure, c'est qu'un matériau, c'est un volume qu'on va déplacer à l'intérieur de la structure et qu'on va couler, fondre à l'intérieur d'un élément. Une structure, c'est un assemblage. Et c'est donc, j'allais dire, un squelette, si vous voulez, ou la Tour Eiffel, voilà, un bel exemple de structure, la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel va se mettre à résonner, non pas de manière acoustique, mais de manière structurale. Et c'est probablement ce qui a fasciné Mozart dans ce glace harmonica, c'est qu'il y a non seulement la sonorité liée au matériau, qui est un peu mystérieux, qui a un coefficient d'amortissement très très faible, hein, c'est un son cristallin à cause de ça, mais aussi le fait que c'est une coque non développable, c'est-à-dire une surface courbée, non euclidienne, qui va se mettre à vibrer, si j'osais, je dirais à la manière d'une cloche. Et donc, oui, effectivement, vous avez raison, les matériaux et les structures, vous voyez, non seulement le facteur d'orgue est spécialisé matériaux, mais il faut qu'il s'intéresse aux structures. Quel métier, quand même.
Merci Yves pour cette émission sur bois, métal et peau, finalement,
merci, Blandine,
de l'orgue. À bientôt dans
merci,
l'émission
Blandine,
de Pierre et de Notes.
Et à bientôt sur les structures.
C'était De Pierre et de Notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lotte.